l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Ce lundi 27 novembre 2023, les élus de la ville de l'Eurométropole de Strasbourg et de Strasbourg ont présenté le chantier de rénovation énergétique du centre administratif de la ville, avec la première tranche des travaux, 800 m² d'extension. L'occasion de parler du bilan du plan sobriété énergétique, un bilan plutôt positif, comme nous l'explique le premier adjoint de la ville de Strasbourg et vice-président de l'Eurométropole, Siamakaga Babaï.
Sur le plan de sobriété, effectivement, les chiffres sont allés au-delà de nos espérances, mais ça veut aussi dire qu'avant, on n'y était pas. C'est aussi cette prise de conscience, c'est qu'avant, même s'il y avait beaucoup de proclamations qui étaient faites depuis une dizaine d'années sur les objectifs à tenir, on était très loin, et que pour faire des objectifs, il va falloir faire des efforts, de changer les habitudes. Forcément, les changements d'habitude ne sont pas simples, ça amène beaucoup de questions, parfois des inconforts. Néanmoins, c'est vers ça qu'on doit se diriger, et dans la durée, dans les 30 prochaines années.
Les chiffres importants à retenir.
C'est d'abord qu'en une année, nous avons réussi à diminuer la consommation énergétique de 14% en moyenne à la ville et à la métropole de Strasbourg. Ça, c'est un élément qui est un élément important. Ça nous fait une économie de 4,3 millions d'euros. C'est 4,3 millions d'euros qui sont disponibles pour des services au public. Ça nous fait aussi aujourd'hui penser que vu le prix de l'énergie et l'augmentation de ce coût, c'est que plus on va dépenser de l'argent en énergie, moins on aura de l'argent pour le service public. Et donc, il y a des arbitrages à faire demain sur cette question, et l'arbitrage qui nous saute aux yeux, c'est qu'il faut consommer moins d'énergie.
Le plan climat 2030 et les chiffres à retenir au niveau des investissements.
Nous avons calculé que pour pouvoir arriver aux objectifs du plan climat, qui est une diminution de 60% de la consommation énergétique de l'ensemble des parcs de la ville et de la métropole, il va falloir dépenser sur les deux collectivités 1,5 milliard d'euros en investissement hors inflation. 1,5 milliard d'euros, c'est à peu près une quarantaine de millions d'euros par an pour la ville de Strasbourg et aux alentours de 6 millions d'euros par an à l'Eurométropole de Strasbourg. On va commencer à approcher ces montants à la fin de ce mandat, puisque c'est une montée en charge qui est progressive. Et l'objectif, c'est d'arriver sur ces montants-là sur le prochain mandat, où il faudra probablement accélérer. Pour faire d'abord de la rénovation thermique, moins consommée, restructurer un certain nombre de bâtiments, mais aussi dans un plan d'ensemble de cession aussi de notre patrimoine. Un patrimoine, par exemple, parfois qu'on n'utilise pas, qui est vide et qui est laissé à l'abandon, mais qui est quand même consommateur d'énergie par moment, ces bâtiments-là doivent être cédés à d'autres opérateurs, que ce soit des bailleurs ou des opérateurs privés qui pourront les user. Et puis enfin, il y a la question des usages des bâtiments. Je pense qu'on a entré aussi dans l'ère où il va falloir travailler l'usage, maximiser et optimiser l'usage. Moins un bâtiment est utilisé, plus il est énergivore, moins il est rentable, et donc il faut rentabiliser l'usage des bâtiments au vu des questions énergétiques.
Vous avez créer des emplois et créer un service également dans le but de la sobriété énergétique. Combien de personnes ont été embauchées ?
Alors effectivement, nos deux collectivités sont en retard par rapport à d'autres collectivités françaises, déjà sur la connaissance de leur parc, de combien de bâtiments on a, qu'est-ce que ça consomme en énergie dans les bâtiments que nous avons. Et donc un service énergie et patrimoine a été créé, 14 personnes ont été recrutées, 6 personnes d'autres services ont été déployés dans une unité de 20 personnes, et ces 14 postes créés ont été cofinancés à 90% par l'Union européenne dans le programme ELENA, qui est un programme qui nous permet aujourd'hui d'être plus en connaissance de nos bâtiments, déployer des sondes, avoir une télégestion de la température plus importante et donc pouvoir ajuster la température au climat ambiant. Sans cette aide-là, on n'aurait pas pu y aller, aussi vite. Mais une fois que les aides sont terminées, il va falloir pérenniser aussi l'ensemble de ces emplois. Il faut se dire que ces emplois génèrent des économies et donc finalement, c'est des emplois qui s'autofinancent par cette économie d'énergie.
Qui vont servir pour la rénovation des autres bâtiments de la ville de Strasbourg, dont des écoles ou des piscines.
Oui, exactement. Ça nous permettra aussi d'avoir des éléments de bonnes pratiques partagées et des modèles énergétiques qui sont des modèles qui peuvent être généralisés ensuite dans l'ensemble des bâtiments, avec l'objectif que quand on va construire du neuf ou quand on rénove, qu'on puisse être dans des bonnes normes. Donc il s'agit d'une ingénierie que nous n'avions pas. Aujourd'hui, on le dispose et il s'agit maintenant de poursuivre dans la durée. Et là aussi, quel que soit, je le dis, c'est important, quel que soit le bord politique, il faut qu'on arrive sur un consensus qui est un consensus d'intérêt général pour le territoire. Il va falloir investir dans la durée. mesurer sur la rénovation thermique, sur les usages, et diminuer ensemble, que ce soit le public, que ce soit le privé, mais aussi les habitantes et les habitants, diminuer ensemble la consommation énergétique.
Comme déjà dit, une stratégie patrimoniale qui va être déployée pour optimiser les usages des bâtiments publics.
Alors on a tout un plan de stratégie patrimoniale qui a été élaboré à l'échelle de la ville et de la métropole, puisque nous avons des bâtiments, que ce soit des bâtiments publics, mais on a beaucoup de bâtiments de propriété privée, mais qui appartiennent aux collectivités publiques, qui sont parfois des logements. Pour la ville de Strasbourg, une bonne part est déjà gérée par Habitation Moderne comme du logement social, tout comme la métropole. Aujourd'hui, nous avons prévu une vague de cessions qui va s'étaler dans le temps. Une partie du parc va être cédée aux bailleurs sociaux sous forme d'un bail à réhabilitation, c'est-à-dire qu'on garde la propriété, mais les bailleurs vont avoir la jouissance du bien, récupérer les loyers pendant des années et rénover à la place. Une autre partie, quand c'est des immeubles, ça va être vendu aux bailleurs et ils vont faire des opérations de logements sociaux, parfois vendus à des opérateurs privés qui vont y faire du logement privé, parfois des opérateurs de bureaux. Et donc l'ensemble de ce plan patrimoine est en train d'être mis en œuvre et ça va se concrétiser à partir de 2024 par des annonces qui seront faites de manière concrète et substantielle.
C'était Siam Akagababaï, le premier adjoint de la maire de Strasbourg. C'est l'architecte du cabinet Antonelle Hierry qui a fait la visite guidée du chantier, l'extension de 800 m² prête à être livrée au mois de janvier.
Donc effectivement, ce bâtiment, sa vocation, c'est d'être ouvert sur la ville. C'est pour ça qu'il est en extension à rez-de-chaussée. Ouvert et transparent pour pouvoir signifier en fait l'ouverture de l'administration pour les gens qui vont venir dans ce bâtiment et au centre administratif. La mise à niveau se fera par un grand parvis végétalisé qui va permettre depuis la place de la Bourse et alentour de pouvoir accéder au bâtiment sans qu'il y ait de rupture de niveau. Donc ça, c'est un point très important pour la mise en relation du bâtiment avec l'espace public. Parvis qui accueillera des bornes interactives pour toutes les informations administratives, qui accueillera également des arceaux à vélo pour à peu près 100 à 150 vélos.
Quelles sont les contraintes pour une extension de 800 m² peu énergivore ?
Bah les contraintes, elles sont, c'est des contraintes d'orientation, de choix de matériaux, de compacité de l'enveloppe, qu'il faut conjuguer avec un bâtiment qui reste un bâtiment public, je veux dire ouvert à l'ensemble, je veux dire, de la population strasbourgeoise. Donc c'est des choses qui peuvent être contradictoires, je veux dire, d'avoir des bâtiments très ouverts avec la nécessité de recherche de performance thermique, qui au contraire vise à faire des bâtiments beaucoup plus fermés. Donc il a fallu qu'on compense certaines parties du projet qui étaient déperditives par d'autres parties de projet qui permettaient de faire des grosses économies d'énergie.
On peut parler d'un bâtiment passif.
On est dans un bâtiment qui est, alors il n'est pas entièrement passif hein, du tout, mais on est dans un bâtiment qui est du niveau ce qu'on appelle BBC rénovation, avec des critères passifs, sans que ce soit un bâtiment totalement passif. C'est pas possible vu la configuration du site et le fait même qu'il soit raccordé, je veux dire, aux installations de chauffage existantes.
Au niveau du matériel, il est éco-sourcé, vous avez fait un choix de proximité au-delà des valeurs énergétiques.
Alors oui, on a décidé par exemple de travailler avec des bois, avec un plancher, un parquet bois qui est un parquet sur champ. Donc un matériau qui est un matériau qui n'émet pas de COV, dont la fabrication utilise assez peu de carbone, donc rejette peu de gaz à effet de serre, d'une part. D'autre part, il faut signaler que tout le mobilier d'attente est totalement issu de recyclage de déchets industriels. Donc on a en fait un mobilier qui est composé d'éléments qui ont déjà consommé une valeur en CO2. Et plutôt que de les détruire, on détourne leur usage pour pouvoir les recycler dans un nouvel usage. Donc la consommation de CO2 est totalement nulle puisqu'elle a déjà été engagée pour les anciennes fonctions de ces déchets.
Et au niveau du coût financier de ces matériaux, c'est équivalent, aux matériaux traditionnels ?
Totalement équivalent pour tout ce qui est sol, peut-être un peu plus cher pour tout ce qui est isolant. Ça, c'est des matériaux, oui, qui coûtent plus cher. Pour le mobilier, moins cher que tout ce qu'on peut trouver. Voilà, donc c'est une réponse qui peut paraître étrange, mais effectivement, le coût du mobilier d'attente est très peu élevé.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.